Fanny Burney, Camilla ou Peinture de la jeunesse. Livre premier. Il faut à l'historien de la vie humaine moins de travail et d'attention pour développer le fil des événements les plus compliqués qu'au peintre du cœur de l'homme pour en saisir les mouvements et les métamorphoses. En vain, la fortune agite sa bannière colorée de toutes les nuances, ses jeux tour à tour favorables ou cruels, ses caprices les plus étonnants, ses révolutions les plus rapides, tout cela est bien loin de la bizarrerie encore plus étrange du cœur humain, prodigieux assemblage de tous les contraires imaginables où rien n'est constant, hors le désir pervers de ceux qui lui est refusé. Il est impossible de définir ses vertus, de calculer ses ressources, de garantir ses faiblesses. Dans les autres, nous ne pouvons pas le sonder. Dans nous-mêmes, nous n'osons pas nous y fier. Il faut mourir avant d'apprendre à juger notre cœur. Il faudrait renaître avec notre première expérience pour pouvoir le comprendre. Sa profondeur illimitée renferme tout ce qu'il y a d'admirable et tout ce qu'il y a d'absurde. Tant qu'il est animé, il s'étonne lui-même. Il cesse de battre et le voilà fermé à tous les regards. Qui pourrait, dans un seul tableau général, réunir tant de traits différents ? En rendre quelques-uns avec des couleurs vraies, quoique toujours bien faibles, est la seule ambition permise à quiconque veut peindre la nature et respecter les personnes. Chapitre 1er. Scène de famille. Le repos n'a pas plus de charme pour le vieillard et l'être souffrant ou malheureux que n'en ont les périls, les difficultés, les travaux, pour les hommes jeunes et entreprenants. Le danger n'est à leurs yeux que l'avant-coureur du succès, l'obstacle qu'un aiguillon à l'industrie, la fatigue qu'un titre à la gloire. L'expérience qui apprend à goûter les leçons de la vérité et les douceurs d'une vie tranquille ne vient point à eux sous les dehors de la raison, sous la forme de la sagesse. Ils détourneraient la tête plein de défiance et de mépris pour ses conseils. C'est l'amertume de leurs regrets, le résultat de leurs épreuves, tout ce qu'ils ont souffert et senti, une longue suite d'erreurs et de repentirs qui leur amènent enfin l'expérience dont la voie alors sait les convaincre et les changer. Dans le sein de sa respectable famille croissait la jeune Camilla. La nature, libérale pour elle, lui avait prodigué les moyens de plaire. La fortune, plus modérée mais plus favorable encore, l'avait placée entre l'opulence et la pauvreté. Son séjour était le presbytère d'Etherington, agréablement situé dans l'inégal comté d'Hampshire, non loin des charmants paysages de New Forest. Son père, recteur du lieu, était le plus jeune fils de la maison de Tyrold. Le revenu de son bénéfice, quoique peu considérable, suffisait pour fournir à ses désirs modestes et bornés, pour donner à la plus digne épouse tout ce que sa propre modération lui permettait d'accepter, et pour élever une famille aimable composée d'un fils et de trois filles, avec cette tendre prévoyance qui sait tout à la fois préparer des ressources pour l'avenir et faire jouir du moment présent. Ces respectables époux étaient unis par la bonté du cœur, par leurs principes de religion et surtout par un parfait accord entre leurs caractères, quoiqu'il y eût dans leurs esprits un contraste d'autant plus marqué qu'aucune nuance, aucune gradation ne semblait l'adoucir. M. Tyrold, doux avec sagesse, indulgent dans sa vertu, pardonnait volontiers tous les défauts hors des siens et reportait sur lui-même la sévérité qu'il épargnait aux autres. Cependant, sa facilité ne l'aveuglait pas. Il savait plaindre les imperfections, mais non les approuver. Ses principes étaient invariables, quoique ses jugements fussent pleins de bonté. Sa compagne avait une fermeté d'âme que rien ne pouvait abattre. Le malheur la trouvait préparée. La prospérité même n'avait point de charme capable de lui faire un moment oublier ses devoirs. L'excellent caractère de son mari était l'orgueil de son cœur et la source de sa félicité. Elle sentait, en l'admirant, non seulement un nouveau zèle pour la vertu, mais encore le besoin de la patience avec les autres, car elle les jugeait toujours d'après la haute opinion qu'elle avait de son époux. Cela lui donnait l'habitude de ces comparaisons secrètes qu'on fait presque toujours avec des yeux prévenus et qui, près de M. Tyrold, ne pouvaient guère être à l'avantage des autres, car telle est dans les plus belles âmes l'erreur de notre faible nature, que ce noble principe qui nous porte à la vertu devient précisément ce qui nous en écarte quand on a l'orgueil de vouloir s'élever à la perfection. Au reste, cette opposition dans leurs esprits n'altérait pas leur affection mutuelle. M. Tyrold révérait sa femme en tâchant d'adoucir ses rigides vertus. Elle, à son tour, adorait son mari en cherchant à fortifier sa douceur trop indulgente. Ainsi, dans cet échange réciproque du bonheur le plus mérité, au milieu des soins qu'ils donnaient avec succès à leur famille, s'écoulèrent les premières années conjugales de ce couple exemplaire. Un événement qui survint parut d'une grande importance pour le moment et d'une plus grande encore pour l'avenir. Ce fut une lettre qu'ils reçurent du frère aîné de M. Tyrold, contenant le dessein où était ce frère de se retirer dans le Hampshire. Sir Hugh Tyrold était baronnet et faisait sa résidence en Yorkshire dans les possessions héréditaires de la famille. Il avait quelques années de plus que M. Tyrold, qui ne l'avait pas vu depuis son mariage. Les devoirs de son état, des raisons de prudence et le soin de ses affaires domestiques l'ayant toujours retenu dans son diocèse, tandis que de son côté, le baronnet, passionné pour la chasse, n'était point sorti de ses domaines. Sir Hugh, dans sa lettre, commençait par s'informer de la santé de M. Tyrold et de celle de sa famille. Puis, venant à ceux qui le regardaient, « Il avait, exposait-il en peu de mots, perdu sa vigueur et sa santé, et, ne sachant plus que faire de lui-même, il avait résolu de changer de séjour et de s'établir près de ses parents. » La terre de Clèves, qu'on lui avait dit située justement dans le voisinage d'Etherington, étant à vendre, il priait son frère de l'acheter pour lui sans délai, et ensuite de préparer Madame Tyrold, qu'il ne connaissait pas encore, mais qu'il supposait d'avance une femme d'érudition, à recevoir un pauvre gentilhomme de province qui, excepté hic, hec, hoc, ne savait pas plus de latin qu'un enfant qui n'est pas né. Il le priait aussi de faire préparer un appartement convenable pour leur nièce, Indiana Lindmer, qu'il devait amener avec lui, et un autre pour leur neveu Clermont, qui viendrait au premier jour de vacances, et de ne point oublier Miss Margland, gouvernante d'Indiana, qui était parmi eux la plus difficile à contenter. M. Tyrold, enchanté de cette occasion inattendue qui allait rapprocher deux frères, lui fit dans sa réponse les plus tendres remerciements, et s'acquitta de la commission avec beaucoup de diligence. Dans l'espace de quelques mois, une maison seigneuriale, avec des jardins et un parc très étendu, fut achetée, arrangée convenablement, et toute prête à recevoir le baronnet, qui, de son côté, impatient de prendre possession de son nouveau domaine, arriva bientôt après avec sa nièce Indiana et fut reçu à la porte du parc par M. Tyrold et toute sa famille. Sir Hugh Tyrold avait hérité de ses ancêtres d'un bien clair et net de 5 000 livres sterling de rente, dont il usait largement pour lui-même, et avec une bonté si généreuse pour les autres qu'on l'aurait cru persuadé que tous ceux qui l'entouraient devaient avoir part à sa fortune, et que c'était, à leur égard, plutôt une dette qu'un bienfait. Il avait une douceur inaltérable, et tout ce qu'il pensait, il le disait à tout le monde, avec aussi peu d'art et de réserve qu'un enfant. Mais il s'en fallait qu'il fût aussi bien partagé du côté de l'esprit que du côté du cœur. L'un à concevoir, il aurait eu besoin de longues études, mais le défaut d'application dans ses premières années l'avait laissé absolument sans culture. Il était son propre ouvrage. Sa jeunesse, une fois écoulée, il sentit fort bien ce qui lui manquait pour ne pas s'ennuyer avec lui-même, et sans cesse il se reprochait de n'y avoir pas songé plus tôt. Une blessure, qu'il s'était faite au côté en tombant de cheval, avait eu des suites funestes pour sa santé. À peine parvenu à la moitié de sa carrière, il lui avait fallu renoncer à la chasse, à tous ses exercices favoris, que ses forces ne pouvaient plus supporter. Mais comme jusqu'alors il y avait donné tout son temps, hors celui qu'il consacrait avec plaisir aux devoirs de l'hospitalité et aux visites du voisinage, il se trouvait à la fois privé de toutes ses occupations et de tous ses plaisirs. Nulle ressource contre ce vide insupportable ne s'était offerte à son esprit lorsque, par hasard, il lut dans les papiers publics que la terre de Clèves était à vendre. Indiana, sa nièce, qui l'accompagnait, jeune enfant d'une rare beauté, était fille d'une sœur qu'il avait perdue. Cette petite orpheline et Clermont, son unique frère, avaient passé à la mort de leurs parents sous la tutelle de Sir Hugues, qui s'était aussi chargé du soin de faire valoir une petite terre d'environ 200 livres sterling, seul patrimoine du jeune homme, et une somme de 1000 livres, seule fortune d'Indiana. L'arrivée de son frère fut pour M. Tyrold une source de tendres émotions et fit naître dans sa jeune famille ses empressements, cette joie vive, si naturellement attachée par les plus heureux préjugés de notre enfance, à la vue de nos proches parents. Madame Tyrold reçut le baronnet avec toute l'amitié qu'elle devait au frère de son mari, qui devint encore plus grand à ses yeux par la comparaison qu'elle fit de l'un à l'autre. Mais tout en regardant Sir Hugues comme bien inférieur, elle n'était pas insensible aux douces espérances que lui présentait son changement de séjour relativement à la fortune de ses enfants. Pour le baronnet, quoique ses plus douces affections fussent vivement excitées par la présence de tant d'objets qui devaient lui être chers, il paraissait auprès d'eux triste et abattu. Assurément, la jalousie ne pouvait entrer dans un cœur aussi bon que le sien. Mais la vue du bonheur de M. Tyrold avait donné une force nouvelle aux reproches intérieurs qu'il se faisait. Pourquoi ne s'était-il pas marié au même âge que son frère? Il aurait pu avoir une aussi belle famille. Qu'avait-il retiré de l'avantage d'être né le premier? Rien qu'une complaisance servile au moindre désir de son enfance. Et voilà ce qui l'avait éloigné du travail et de cette prévoyance modeste qui prépare pour les dernières années la consolation dont elles ont toujours besoin. Peu à peu, la satisfaction répandue autour de lui parvint jusqu'à son âme et il avoua qu'un si tendre accueil l'avait sensiblement ranimé. Cependant, ajoutait-il avec candeur, si je n'avais été si fort embarrassé de moi, jamais je n'aurais songé à entreprendre un si long voyage. Mais je n'ai pas fait de provisions dans ma jeunesse, et à présent je suis au dépourvu. » Il caressait tous les enfants avec beaucoup de tendresse. Il était frappé de la beauté de ses trois nièces, surtout de celle de Camilla, seconde fille de M. Tyrold. « Quoique ça, disait-il en élevant la voix, elle n'est ni aussi jolie que sa petite sœur Eugénia, ni beaucoup mieux que Lavinia, son autre sœur. Et aucune des trois n'est aussi belle que ma petite Indiana. » Ainsi, je ne puis bien dire pourquoi elle me plaît si fort. Mais il y a dans sa petite bouche quelque chose qui me charme et aussi dans la manière dont elle me regarde, quoiqu'on dirait presque qu'elle a envie de se moquer de moi. Ce qui ne serait pas bien non plus, car je suppose que, de livres et de latin, elle n'en connaît pas plus que son oncle. Et Dieu le sait, ce que j'en connais est bien peu de choses, car je ne m'y suis jamais appliqué dans un temps convenable, ce dont j'ai été assez fâché dans l'âge de raison. » S'adressant ensuite au petit Lionel, son neveu, il exhorta surtout à travailler sans relâche, tandis qu'il était jeune, et lui rapporta quelques traits d'application et d'habileté qui avaient fait honneur à son père, quoiqu'alors il fût livré à sa propre conduite. « Comme pour mon propre malheur, continuait-il, je l'ai été moi-même, ce qui a été cause de l'ignoramus total où vous me voyez à présent, et ce qui ne serait pas arrivé si mes bons parents y avaient tenu la main un peu plus ferme. » Lionel, jetant un regard malin sur Camilla, pria son oncle de lui dire ce qu'il entendait par ces derniers mots. « Eh, mais en vérité, mon cher neveu, cela veut dire donner le fouet comme il faut, car on dit que tout cela s'apprend avec la verge. Et de cette manière, au moins, j'aurais pu devenir aussi habile que mes voisins. » « Mais de grâce, mon oncle, dit Lionel en pressant ses lèvres pour ne pas rire. Avez-vous toujours eu pour la correction autant de goût qu'à présent ? » ?»« Vraiment non, mon cher, je ne dis pas cela. Il est bien certain qu'à votre âge, je ne l'aimais pas plus que vous ne l'aimez aujourd'hui. Mais il y a temps pour tout. Cependant, je n'en parle que par forme d'avis. Il est possible que vous n'en ayez pas besoin, car d'après tout ce que j'entends dire, au jour d'aujourd'hui, on a bien perfectionné l'éducation. » Il devait, ajoutait-il, l'avertir en ami d'être bien sur ses gardes. Car son cousin, Clermont Lindemer, actuellement au collège d'Eton, et qui viendrait passer avec eux les vacances de Noël, ne pouvait manquer de devenir l'exemple de ses camarades, attendu qu'il avait donné des ordres pour qu'on le fît étudier le jour et la nuit également, excepté le temps absolument nécessaire pour les repas et pour le sommeil. car, ayant prouvé par mon expérience l'inconvénient de ne rien savoir, j'en ai plus le droit de me mêler de l'éducation des autres, et Clermont me remerciera plus d'une fois quand il aura fini ses études. Et j'espère, mon cher petit enfant, que vous voyez tout cela comme moi, quoiqu'après tout, c'est ce que je ne dois pas attendre. » On se mit à examiner la maison. La belle petite Indiana prit possession de son appartement. Miss Margland fut satisfaite des soins qu'on avait pris pour elle, et Sir Hugh fut enchanté de trouver pour Clermont une chambre qui ne recevait le jour que d'en haut, ce qui l'empêcherait, disait-il, de quitter son ouvrage pour regarder ce qui se passerait autour de lui. Il était déjà nuit quand M. Tyrol s'en revint au presbytère, emportant la douce espérance que son frère pourrait devenir plus heureux. Mais cet espoir ne dura pas longtemps. La nouveauté des objets avait ranimé Sir Hugh. L'habitude de les voir laissa bientôt renaître sa langueur et ses souffrances. Le sort de son frère, bien différent du sien, quoique ce même frère ne fût pas né pour être aussi heureux que lui, remplissait son âme de regrets continuels sur le mauvais emploi de sa jeunesse. Pour l'expier, en quelque sorte, il résolut de se composer une famille dans sa propre maison. Et cette petite Camilla, dont la naissante vivacité l'avait charmée dès le premier jour, il va la demander à ses parents, les priant de permettre qu'elle s'établît à Clèves, avec lui et avec Indiana. Car, disait-il, si jeune et si peu de choses que cela est à présent, elle est extrêmement réjouissante. Madame Tyrol n'était pas d'avis de confier un dépôt si précieux à un homme si peu capable d'en connaître la valeur. Camilla était en secret son plus tendre espoir, quoique la rigueur de sa justice maternelle lui permît à peine de sentir cette préférence. Et d'ailleurs, la petite Camilla n'avait pas besoin, pour être heureuse, de distinctions marquées. L'allégresse et la joie semblaient s'écouler de son cœur, et ses veines bleues et transparentes en laissaient presque voir la rapide circulation. Chacun de ses regards était un sourire, chaque pas un élan, chaque pensée une espérance, chaque sentiment un plaisir, et nul mélange dans sa félicité. Ô bienheureux état de pureté, d'innocence et de délices, pourquoi nous échappe-t-il si vite? Pourquoi n'en comptait-on bien le prix qu'après l'avoir perdu? Camilla était aussi l'amour et l'espoir de M. Tyrol, mais l'amitié qu'il avait pour son frère lui faisait voir sa demande sous un jour plus favorable. Il lui semblait certain que la résidence de cet enfant auprès de son oncle lui assurerait une fortune considérable. Elle pourrait partager avec Indiana les soins de la gouvernante. Et, quoique trop loin, disait-il à sa femme, pour profiter à chaque instant de vos leçons, elle restera toujours sous votre surveillance générale, et même, je vous laisse l'entière liberté de la rappeler auprès de nous dès que vous le jugerez nécessaire. Mes enfants n'ont point de fortune à espérer si je mourais avant d'avoir pu remplir mes vues d'économie en leur faveur. » Et, voyant que Madame Tyrol ne répondait rien à une aussi forte raison, il la pria encore de considérer que si le séjour de Clèves n'offrait pas des leçons d'élégance et de politesse dans les manières, on était sûr d'y trouver, et c'était l'essentiel pour des parents, les vertus morales mises en pratique et des exemples constants de bonté, de bienfaisance et de droiture, qualité que son frère possédait à un degré éminent, qu'enfin, si pour l'éducation de Camilla il y avait de la part du baronnet aucun profit à espérer, du moins n'y avait-il non plus aucun dommage à craindre. Madame Tyrol ne fit pas d'autres objections. Elle n'avait jamais résisté à son mari, et comme le sentiment de son devoir lui défendait toujours le moindre murmure, elle se retira dans sa chambre pour cacher combien son cœur était déchiré. Si cette dame avait été mariée à un homme bien moins digne de son estime, elle aurait eu de même pour ses désirs une déférence scrupuleuse, quoique moins agréable pour elle. Elle considérait les promesses faites à un époux au pied des autels comme une vestale volontaire regarde celle qu'elle fait à son créateur, et nulle différence d'opinion n'aurait pu justifier à ses yeux la moindre résistance. Mais, unie à un homme dont elle admirait, dont elle adorait presque le caractère, elle ne manquait jamais d'approuver les motifs qu'il avait dirigés, quoique les conséquences lui en pussent être désagréables. Et même quand elle était d'un avis absolument contraire, son ardente et généreuse tendresse non seulement lui adoucissait le sacrifice, mais le lui rendait agréable s'il pouvait plaire à son époux. M. Tyrold, dont l'âme entière était pénétrée du mérite de sa femme, sentait son pouvoir sur elle et s'étudiait avec autant de scrupules que de reconnaissance à n'en pas abuser. Rendre ses vertus fructueuses pour son bonheur, lui adoucir ses devoirs par l'intime conviction de leur importance, c'était le premier but, l'objet le plus sacré de ses tendres soins. Tandis que leur vive et charmante Camilla, tout à la fois affligée d'une si prompte séparation et enchantée, comme on l'est à son âge, d'une perspective nouvelle, faisait en pleurant et en sautant les préparatifs de son départ. « Rappelez-vous, disait M. Tyrold à sa mère inquiète, rappelez-vous, ma chère Georgina, qu'à vous seule appartiendra toujours le droit de la faire revenir sous le toit paternel, dès que vous croirez qu'il y aurait quelque danger pour elle à en être éloignée. » Les tendres remerciements de Mme Tyrold lui prouvèrent combien elle comptait sur cette promesse. Elle ne laissa plus paraître aucun regret, et son obligeante condescendance l'éleva encore aux yeux de son mari, dont l'estime était pour elle la première des récompenses et le plus haut terme de son ambition.